Vincent 2-1, c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
Quelle belle journée, c'est ce qu'on a actuellement. Profitons-en. 18 degrés sur Québec. Pas trop humide à l'extérieur. C'est confortable. Généralement nuageux à certains endroits, nous dit-on. Seulement 30 % de probabilité d'averse. Avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie de 27. Ce soir, cette nuit, c'est des nuages. 30 % de probabilité d'averse, minimum de 15. Demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 24. Jeudi, ensoleillé, maximum de 25. Vendredi, alternance de soleil et nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 24 degrés. Juste avant de passer à Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, petite nouvelle de dernière minute, mon ami.
Ouais, toujours en lien avec les informations qui véhiculent, tout en lien avec le dossier de la CDPQ Infra, en lien qu'on devrait proposer un tramway dès demain ou jeudi, tout dépendant quand le dossier sera public. Mais avec les informations du Journal de Québec, on parle que le coût du projet du tramway pour la phase entre Legendre et Charlebourg, soit la phase 1, coûterait 5 milliards de dollars uniquement pour l'infrastructure de transport. Les phases 2 et 3, on ajouterait 2 milliards à tout ça. C'est des sources près du dossier qui auraient confirmé tout ça là, au Journal de Québec. Donc, encore de l'argent, pas à peu près, pour ce projet-là.
Après Capitaine America, on parle au directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Son nom, c'est Nicolas Gagnon. Salut, mon ami!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Gros dossier à Québec actuellement là, avec le rapport de la caisse, le rapport de la Caisse de dépôt et de placement. On en a jasé longuement. Et là, une petite nouvelle qu'on a pu lire dans les journaux de Québécois, c'est concernant c'est concernant Hydro-Québec. Même si Hydro-Québec a pas été super, les dirigeants d'Hydro-Québec ont reçu leur boni sans aucun problème. Et là, on apprend par l'entremise de Québécois qu'on se penche sur un plan pour presque doubler le salaire des employés qui sont déjà à l'interne, le salaire des patrons, bien entendu. Quelle histoire, Nicolas?
Ben, ça fait aucun bon sens, je veux dire. Entendons-nous sur une chose, l'année dernière, Hydro-Québec a affiché une de ses pires années en termes de perte de rendement. Ils ont perdu 1 milliard de dollars par rapport à l'année précédente parce que il y avait des problèmes là, au niveau là, des bassins. On disait qu'on manquait d'eau et tout ça pour les turbines. Donc, ça explique une des raisons pour lesquelles on a eu un déficit énergétique énorme. On sait que Hydro-Québec, on a des pannes de courant qui durent en moyenne de plus en plus longtemps. On parle de 17 heures en moyenne. On a un nombre record de Québécois qui attendent d'être branchés depuis plus de 2 ans. Et le service à la clientèle, sans oublier même de la prise en charge des infrastructures d'Hydro-Québec, laisse à désirer. Puis ça vient de la bouche de Michael Sabia lui-même. Et là, on s'attendait à ce que peut-être que le gouvernement se dise, OK, bon, on va pas mettre sous tutelle Hydro-Québec, mais on va y faire du ménage. On va s'assurer à ce qu'il y ait une meilleure gestion puis qu'on ait du meilleur rendement. Mais non. Au lieu de ça, on se dit, ben, on va attirer des pointures, des top guns du privé ou de l'externe d'Hydro-Québec, donc nécessairement du privé, pour essayer d'augmenter, en fait, là, les résultats d'Hydro-Québec. C'est carrément pensé avec une baguette magique puis espérer que ça va se réaliser. Parce qu'il faut dire une chose, eux, ils espèrent que c'est en augmentant la rémunération des vice-présidents d'Hydro-Québec que soudainement on va commencer à avoir soit plus d'électricité, on va retrouver les fameux surplus qu'on va voir disparaître à la fin de la décennie, ou même qu'on ait un réseau énergétique plus solide. Mais pour l'instant, j'ai rappelé que les vice-présidents d'Hydro-Québec, ça gagne entre 600 et 840 000 $ par année. C'est pas des petits pays. Oui, ils ont quand même des salaires qui sont démesurément plus élevés que la moyenne des salaires québécois. Et le PDG, Michael Sabia, quand on prend en considération aussi les bonus qui s'appliquent, on parle quand même $1 million en rémunération. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment augmenter ou ça va améliorer quoi que ce soit chez Hydro-Québec d'augmenter des salaires? Surtout, on parle des cadres, on parle vraiment du monde en haut de la pyramide, alors que les problèmes sont plus structurels. Je veux dire, ça laisse à désirer, puis t'annoncer quand même complètement déconnecté de ce qu'on avait déjà entendu de la part de François Legault d'ailleurs, parce que tu sais, ils nous ont livré un déficit de 11 milliards à Québec il y a quelques mois, puis François Legault est arrivé en disant, ben on va faire du ménage, on va dire à certaines sociétés d'État de faire leur part pour être en mesure de mieux gérer leur portefeuille et ben, même dégager des économies qui pourraient être intéressantes pour nous, ou sinon ben maximiser leurs revenus, qui vont être bons pour les coffres du gouvernement d'une manière ou d'une autre. Et là, ben, on parle d'augmenter les salaires des cadres. Je veux dire, tout ça arrive après quelques semaines après qu'on a appris que chez Hydro-Québec, on s'est distribué 37 millions de dollars en bonis l'année dernière, une somme record qui vient quasiment de manière paradoxale avec le fait qu'on a eu une perte record d'un milliard. Et en plus, on est rendu à ouvrir un département de communication pour TikTok puis de tout ce genre de choses-là, parce qu'on sait tous très bien que la mission principale d'Hydro-Québec, c'est de nous informer via TikTok. Y a-tu vraiment une prise de conscience chez Hydro-Québec? Est-ce que Michael Sabia, est-ce que ça fait partie de la stratégie présentement ou ça fait partie de ce qui a été mis de l'avant dans le dernier projet de loi de Fitzgibbon qui a été déposé la semaine dernière? Une chose est sûre, c'est clairement pas d'augmenter les salaires des vice-présidents de Hydro-Québec que finalement on va avoir un meilleur service de la part de Hydro-Québec.
Mais c'est toujours les amis des amis qui bénéficient de tout ça. C'est incroyable. Puis, tu sais, tu parles des VP, il y en a là-dedans qui gagnent autour de 800 000 $. On pense même doubler leur salaire. Donc, si on double le salaire du VP, on comprend par le fait même que le PDG d'Hydro-Québec qui gagne à peu près un petit peu plus qu'un million de $, son salaire va être augmenté aussi. Il peut pas moins gagné que les VP de l'entreprise?
Ben, exact. L'un va suivre l'autre. Donc, c'est inévitable que si on double le salaire des VP, on va faire possiblement aussi augmenter, peut-être pas le doubler, mais on va drastiquement augmenter le salaire du PDG. Et oui, on va frôler les 2 millions de $. Puis là, rendu là, on se dit, ben, OK, ben, c'est bien beau, mais c'est quoi le retour pour le pas juste le contribuable, mais carrément pour le consommateur d'électricité? Est-ce que d'avoir un PDG à 2 millions de $ à la tête d'Hydro-Québec, ça va faire en sorte qu'on a moins de panne d'électricité ou sinon que le travail des mondages est mieux fait ou que le service à la clientèle est plus efficace? Ça, si on peut me répondre par la positive que d'augmenter le salaire des cadres, ça va nous permettre d'avoir ça pour les gens comme vous et moi qui espérons juste avoir des meilleurs services de leur société d'État, ben là, je serais peut-être intéressant d'entendre parler. Mais je tiens à rappeler aussi que ce genre de choses-là, on l'a vu dans d'autres sociétés d'État, entre autres Investissement Québec. En 2019, ils ont eu un droit à un réajustement de leur rémunération. Et je veux dire, des vice-présidents sont passés de 800 000 $ par année à 1 million de $ par année. Mais Investissement Québec nous a pas donné nécessairement des meilleurs résultats jusqu'à maintenant. Ils ont eu des pertes de rendement par moment, puis dans tant d'autres aussi. Mais au final, la société d'État, ce qu'elle est, n'est pas non plus soudainement meilleure parce qu'on a réussi à tirer quelques top guns de plus du privé. C'est sûr qu'on veut du monde du privé dans l'ensemble du système public, parce qu'on espère améliorer la machine, puis on espère attirer les meilleurs éléments.
Oui, puis tu sais, on comparait tantôt, Nicolas, Yannick et moi, le fait qu'il des fois, des gens qui n'ont pas nécessairement les conditions optimales ou un salaire optimal pourraient se présenter pour les mauvaises raisons puis s'investir dans des trucs un peu plus gouvernementaux pour ces raisons-là. Mais c'est quoi la solution? Tu sais, 800 000, c'est sûr qu'on entend ça, puis on dit, on pourrait tellement l'investir dans des projets importants pour une société d'État. D'un autre côté, on veut des personnes efficaces, efficientes en place. Puis d'un autre côté, comment est-ce qu'on les motive, ces gens-là, si c'est pas par le salaire? C'est juste avec des bonnies si jamais ils atteignent leur point? Et où la solution? C'est dur.
Ben 800 000 par année, je me demande qu'est-ce qui te motive. Mettons que tu rajoutes un 100 000 de plus. C'est quoi
déjà
qui te motive?
Très motivé, ouais, c'est ça. Si on diminue ça, comment on les motive?
Ben, j'aurais peut-être pas jusqu'à diminuer leur salaire, mais j'aurais tendance à dire que si on veut les motiver puis leur donner vraiment des opportunités intéressantes dans le public, ben, il faudrait s'assurer que les sociétés d'État aient des meilleurs rendements. Comme je disais pour Hydro-Québec, qui ont perdu un milliard l'année dernière, mais ils sont quand même distribués 37 millions de bonus. Pour moi, c'est
et là, le scandale.
C'est ça, des scandales. Ben, alors que, en réalité, je sais pas si ça existe au Québec. Il faudrait faire des petites recherches, même faire la pression auprès de l'Assemblée nationale, mais d'avoir une loi qui fait en sorte que les dirigeants des sociétés d'État peuvent pas se distribuer des bonus s'ils n'ont pas de rendement positif, ça serait déjà strict minimum. Puis après ça, si au moins Hydro-Québec avait du rendement très positif, puis qu'Investissement Québec en ait, toute la gang, puis l'Auto-Québec et compagnie, tous ceux qu'on a vus l'Auto-Québec, c'est la même chose. Ils ont eu des bonus l'année dernière, ils ont eu une perte de rendement d'à peu près 84 millions par rapport à l'année précédente. Donc, c'est-à-dire, OK, ben, j'ai pas de problème à ce qu'on les rémunère comme du monde, puis qu'on leur donne même des bonus de performance. Mais on veut de la performance, on veut du rendement, puis il faut que ça se reflète autant dans les chiffres, je veux dire, dans les bénéfices qui vont dans les coffres du gouvernement, que dans l'amélioration des services auxquels nous, on a droit en tant que contribuables et bénéficiaires. Ben, parce que là, pour l'instant, c'est un peu comme avec l'Agence Santé Québec. On donne des gros salaires, plus de 547 000 $ par année, plus un chauffeur pour la nouvelle PDG. On emmène déjà des gros cadres avec des gros salaires dans les six chiffres. mais on n'a même pas encore commencé à travailler, on n'a même pas encore de résultats de la part des réformes qu'on s'attend du système de santé. Puis Hydro-Québec, ben, on s'attend aussi à des réformes, ben, on n'a pas encore ces résultats-là, on a juste déjà des promesses d'embauche de Top Gun, comme il n'arrête pas de rappeler, mais les gens en bas qui payons pour ça, qui vont voir nos factures d'électricité augmenter tranquillement avec le temps, ben, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une amélioration quelconque, sinon ça sert à quoi de payer plus cher des gens qui ne livrent pas plus.
Oui, puis nous parlait des multiples pannes. Nicolas, souviens-toi, dans les dernières années, on parlait de multiples pannes. Il nous disait, ouais, mais c'est en raison des changements climatiques. Puis quand on parlait avec les monteurs de ligne ou encore les élagueurs, ils nous disaient qu'Hydro-Québec avait pris des décennies de retard sur l'élagage. Puis il y avait même un monteur de ligne qui m'avait dit, tu sais, Yann, quand on est dans le poteau, puis la branche, elle nous flatte dans le dos, là, c'est jamais, jamais bon signe. Là.
Ben, c'est exactement ça. Puis, je veux dire, ça a déjà été reconnu par Hydro-Québec qui ont pas mal de problèmes, même au niveau de la productivité à l'interne. Si on regarde juste ces éléments-là, au cours des 40 dernières années, la productivité chez Hydro-Québec est en pente glissante. Je veux dire, aussi la prise en charge des infrastructures, des actifs. Je veux dire, si augmenter ou si donner des salaires à des vice-présidents d'Hydro-Québec de quasiment $1 million par année, ça nous permet d'avoir en contrepartie une amélioration sur le terrain. Je serais peut-être plus ouvert à en entendre parler, mais pour l'instant, on commence en haut alors que les problèmes sont en bas. Donc, je pense que c'est vraiment un manque de sérieux de priorité. Puis de voir le gouvernement du Québec prendre cette orientation-là alors qu'il y a quelques mois, il parlait de serrer la ceinture à ces différentes sociétés d'État comme Hydro-Québec et autres. Ben, pour moi, c'est comme deux messages complètement différents en quelques temps. Puis je peux comprendre pourquoi les gens doutent que ce soit une bonne décision pour eux.
Ah, on dirait que c'est toujours les mêmes, en plus, qui bénéficient de tout cet argent-là. Puis c'est toujours les mêmes qui payent aussi. Hey, on veut revenir un peu sur le sondage du week-end dans le Journal de Québec. C'est un gros sondage sur l'anxiété financière des Québécois. Pascal, t'es-tu anxieuse par rapport à tes finances, là, qui est très dépensière?
Quoi? Je suis pas anxieuse, mais je suis très militaire.
T'es militaire?
Oui, je choisis beaucoup est-ce que je dépense ou est-ce que je me gâte, mais depuis que je suis très jeune, j'économise.
OK, toi? T'es-tu stressé?
Sérieusement, ça va bien pour l'instant, mais sérieux, faut vraiment que je prenne le temps de regarder où que je mets mon argent.
OK. Moi, ouais. Dans mon cas, je dépense pas. Fait que j'ai pas de trouble.
Ouais. Hein? Mais j'ai jamais été un dépenseur, moi.
Moi,
non plus.
Je dépense plus que vous, ça c'est sûr. Parce que j'ai besoin de cette équipe-là. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir, puis ça m'énerve. Mais sachant pas quand est-ce que je vais mourir. Sachant pas quand est-ce que je vais mourir, je suis anxieuse à savoir est-ce que j'en mets assez de côté continuellement depuis que je suis jeune.
C'est ça. Nick, chaque soir avant de se coucher, Pascal se pose cette question. Quand vais-je mourir?
Est-ce que j'ai assez profité? Si je meurs demain, est-ce que je fais ça a été une sacrée belle ride? Ou pas?
Ouais.
Ben, je suis un peu de cette vie-là, mais je suis aussi très conservateur de la manière que j'aime mon argent.
Même
aussi,
chose.
Je suis assez, mais tu vois, je suis pas anxieux par rapport à ma situation financière. Je touche du bois, puis je me considère quand même assez privilégié, puis c'est grâce au travail essentiellement. Mais malheureusement, on s'entend parler, puis on est quand même chanceux parce que la réalité n'est pas la même pour un grand nombre de Québécois comme on l'a vu.
Oui, mais attention, nous autres, on se fie sur notre situation financière actuelle, mais Pascal. Comment ça va te coûter vivre lorsque tu auras 70 ans?
Mais c'est plus ça, moi, qui m'inquiète.
Tu vas être capable de payer un loyer?
Des fois, je trouve que j'en mets trop de côté pour ça, parce que mon inquiétude est là.
T'en mets trop de côté?
T'en mets jamais trop de côté, mais des fois, je trouve que j'ai été, à prévoir l'imprévisible qui est imprévisible et qui n'arrivera jamais aussi. Ouais.
C'est quoi, c'est 4 Québécois sur 10 à peu près, Nicolas, qui sont un peu stressés par rapport à l'argent?
Ben oui, c'est à peu près ça, 4 sur 10, 41% qui disent qu'ils ont peur de manquer d'argent pour payer les dépenses courantes. T'as quand même 12% des Québécois pardon, qui ont besoin d'un second emploi présentement pour joindre les deux bouts. Puis t'as quand même 52% des Québécois, c'est quand même pas rien, là. 52% des Québécois qui ont peur de pas pouvoir se loger convenablement parce qu'on est tous un peu affectés par la crise du logement. Je veux dire, si pour l'instant vous êtes propriétaire, et vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts pour payer votre hypothèque. Vous savez très bien aussi que ce sera pas plus facile pour vous de trouver un loyer qui va être abordable parce que ce que vous payez en hypothèque présentement, c'est quasiment aussi cher que ce que vous allez payer en loyer pour moins, bien sûr. Fait que ça, clairement qu'on voit à quel point l'augmentation du coût de la vie, ça affecte les Québécois pas à peu près quand on dit que plus de 4 Québécois sur 10, pas loin de 4 Québécois sur 10 vivent d'un chèque à un autre. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à un imprévu dans la vie de tous les jours de devoir faire des sacrifices dans leur quotidien, ne serait-ce que avec ce qu'ils mangent ou avec leur commodité de base. Mais je pense que l'indice qui est un peu plus percutant, c'est qu'on parle des faillites puis qu'on se compare avec le reste du pays. Parce que quand on regarde ça, il y a 31 914 Canadiens qui ont fait faillite personnelle au cours des 12 derniers mois. Et 12 500 d'entre eux étaient au Québec. C'est le tiers des faillites qui sont au Québec présentement. En fait, plus de temps, on parle de quasiment 40% des faillites au Canada sont ici. Et si on se compare avec notre voisin, parce que notre cher premier ministre, M. François Legault, aime-t-il nous comparer avec l'Ontario pour réduire nos écarts de richesse, ben, le Québec a eu 12 422 faillites l'année dernière. L'Ontario en a eu 9 922. Donc, pour une population beaucoup plus importante puis une économie plus grande, ils ont eu moins de faillites. Donc, ça démontre à quel point, là, je veux dire, on est dans une drôle de dynamique ici, puis ça nous touche de manière plus particulière à nous que dans le reste du pays. Puis qu'est-ce qui explique ça, entre autres? Ben là, heureusement, on a eu une baisse du taux de directeur la semaine dernière. Ça va peut-être soulager quelques personnes, mais on s'entend que 0,25% après avoir eu 10 augmentations de taux, c'est peut-être pas ça qui va donner le meilleur allègement. Mais les taux de renouvellement hypothécaire, c'est vraiment ce qui affecte beaucoup les gens. Et sinon, en deuxième position, c'est la hausse vertigineuse des loyers. Donc, comme je disais au départ, 52% des Québécois ont peur de ne pas pouvoir se loger convenablement. Ben, c'est là qu'on voit l'impact de cette crise du logement qui crée cette anxiété économique encore plus importante qu'elle ne devrait l'être.
C'est 40% des Québécois qui vivent à peu près de paye en paye, là. Ça doit être un stress énorme. Là. Advenant le cas, il y a une bad luck, une montée du prix de l'essence. Là. Tu sais, un genre de 10 cents, là, ça peut jouer dans ton compte en banque.
Une réparation de voiture, on en parle. Réparation de voiture. Les freins à Audrey, 900 $ si tu n'as pas un coussin. Là.
Ouais. Puis pour ce qui est du coussin, Nick, c'est 36% des répondants qui ont dit ne pas avoir un coussin d'au moins 5000 $ en épargne pour faire face aux imprévus. C'est quand même gros, là, 40%.
Ben c'est beaucoup. Fait que ça, c'est, on s'entend que 5000 $ c'est même pas un cash down non plus. C'est à peine un déménagement puis, ou l'achat d'une voiture usagée. Là, c'est un montant d'argent qui est important, qui peut démerder, comme on dit à bon québécois, mais de l'autre côté, c'est pas non plus le montant d'argent qui va te permettre de changer du tout pour tout ta vie du jour au lendemain. Fait que de se dire qu'un aussi grand nombre de Québécois ont pas, je veux dire, ce petit fonds de sécurité de côté, ça indique à quel point c'est difficile pour eux d'économiser présentement. C'est pas grave d'économiser pour mettre 5000 $ de côté. Bonne chance pour économiser pour t'acheter une voiture ou pour même t'acheter une maison. Parce que ça reste quand même dans les objectifs de la plupart des gens qui épargnent au Québec, qui espèrent un jour encore devenir propriétaires. Mais moi, ce qui me sidère le plus dans tout ça, parce que les chiffres, on s'y attendait un peu, on le voit très bien, les prix à l'épicerie, les prix des maisons, les prix des loyers, donc tout ça, ça nous percute depuis plusieurs mois, voire années. Mais ce qui me percute encore plus, c'est le silence des élus à tous les niveaux. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une écoute de leur part, parce que clairement, qu'on voit que les Québécois en arrachent, mais on a depuis les petits chèques de 500, 400, 600 $ là, que Legault a envoyé, ou la baisse d'impôt de 1% qui est entrée en vigueur l'année dernière, on n'a eu vraiment aucune tentative d'offrir une main.
Mais oui, mais Nicolas, les chèques, ça a mené à situation inflationniste. Là, je peux pas partir là-dessus parce qu'on va manquer de temps, mais ça a mené à situation inflationniste qu'on connaît en ce moment. Ce n'était qu'une campagne politique, là. Faites-moi croire que ça a changé du tout au tout vos finances. Au contraire, ça a accéléré tout ce qui est inflation puis ça a fait augmenter l'inflation. Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est tabou. Ils savent qu'ils ont donné ces chèques-là, qu'ils ont peut-être à voir en partie là-dedans. C'est gênant, c'est pas facile. Puis en plus, ils ont à manier là-dedans avec le besoin primaire d'un foyer, survivre. Mmh.
Ben mais... absolument. C'est sûr que les chèques qui ont envoyé ça, je veux dire, c'était pas nécessairement une bonne idée. Je veux dire, c'est mieux d'offrir des épargnes à la source aux gens pour qu'ils puissent économiser plutôt que de leur envoyer des chèques. L'incitatif est d'envoyer des chèques et automatiquement de le dépenser. C'est vraiment ce qui était observé, c'est ce que plusieurs étaient dénoncés. La baisse d'impôt d'un pour cent, par exemple, elle a peut-être plus aidé. Généralement, quand on va chercher, ben peut-être pas aider l'inflation, mais elle n'a pas alimenté. On l'a vu dans d'autres provinces d'ailleurs, comme le Manitoba, où est-ce qu'on a retiré la taxe provinciale sur l'essence de 14 cents, ben ça a aidé l'inflation à ralentir un peu dans la province. Donc, c'est vraiment quand on s'attaque aux différents mécanismes à la source que ça aide le plus. Mais quand on regarde au niveau municipal, je veux dire, la mairesse Plante, elle vient d'avoir augmenté de 154% la taxe sur les matriculations à partir du 1er janvier prochain. On vient de servir la pire augmentation de taxes municipales depuis les 10 dernières années. À Québec, même chose. On a eu la pire augmentation de taxes depuis les fusions municipales il y a près de 22 ans.
OK, on t'arrête, Nicolas. C'est bien trop triste. On arrête. Merci beaucoup. Ça a vraiment été fun de te parler.
C'est toujours un plaisir.
Oui, Nick, c'est toujours un plaisir. Puis on se reparle la semaine prochaine. On invite les auditeurs sur votre site web contribuable avec un S.ca, contribuable.ca. Merci.
Merci, Nick.
Ça fait plaisir. À bientôt. Salut.
Salut, bye-bye. L'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Il est directeur Québec pour cette même fédération. On vient.
Marceau, le midi.